le peuple de Rome de la famine en lui distribuant du pain, d'où le nom Frangere Panem. Richissime, cela va sans dire, mais belle, on ne sait. Elle était en tout cas d'une générosité sans limite et songeait à se faire religieuse. Quand elle vit François, il semble qu'il y ait eu de part et d'autre un coup de foudre spirituel. Certaines âmes vont l'une vers l'autre, comme si elles se reconnaissaient. À la première occasion, elle se confia à lui et le prit comme conseiller. Or, ce que François admirait en elle était que, vivant dans le monde, elle y était comme si elle n'y était pas. Sans le savoir, elle incarnait déjà l'idéal du tiers-ordre, et il est possible que son exemple fût l'éclair qui fit briller dans l'esprit de François la vision magnifique d'une fraternité universelle de laïcs. Sa fidélité courageuse aux enseignements du Christ provoqua l'admiration du saint. Étant donné les vues de François sur le danger de fréquenter les femmes, il dressa entre Jacqueline et la fraternité une sorte de barrière psychologique qui la rendait inoffensive. La personnalité de frère Jacqueline reste malgré tout un peu mystérieuse à cause du silence qui s'est fait sur son aspect physique et qui soulève un problème délicat. Peut-être lui manquait-il ce degré de féminité qui l'eût rendue dangereuse pour les frères. Je l'imagine assez bien se jetant aux pieds de François pour qu'il la délivrât d'elle-même. Combien d'hommes et de femmes se réfugient dans les couvents moins pour fuir le monde que pour se fuir eux-mêmes. Avec sa délicatesse habituelle, François inventa le nom de frère Jacqueline. Il l'appela ainsi avec cette propension du sexe fort à donner le nom d'homme à des femmes dont l'énergie lui paraît méritoire. Mais ce n'est pas ici le lieu de critiquer ce petit travers masculin. Chaque fois qu'il séjournait à Rome, François était l'hôte de frère Jacqueline. Elle confectionnait pour lui un petit gâteau qu'il ne refusait pas, comme si cette infime concession à la faiblesse humaine parvenait à faire une brèche dans son ascétisme de tous les jours. Et, amusante rencontre de l'étymologie, le gâteau était une crème à la frangipane. Pour la petite histoire, notre Pithiviers a la même origine. Ce sont les frères mineurs ou les Clarisses qui en ont rapporté la recette de Rome au bord de la Loire. Le grand méchant loup. Il est tellement connu qu'il est inutile de le présenter, le loup de Gubbio. Voici le moins miraculeux de tous les miracles de François. Le vrai miracle eût été que le loup mangeât François, car il n'est pas d'exemple qu'aucune bête fît du mal au petit homme vêtu de bure. Tout le règne animal le respectait pour des raisons qui restent secrètes. On constate seulement que les bêtes l'aimaient. Voyait-elle en lui une aura d'amour que nos yeux ne peuvent discerner et qui, agissant sur elle, les rendait heureuses, peut-être sous la forme de cette auréole que nous ne voyons que dans les portraits de saints? Les exemples ne sont pas rares. Un des plus célèbres est celui de saint Serge de Radonège, qui avait pour compagnon dans les bois un ours avec qui il partageait son pain. Et je n'oublie pas le lion de saint Jérôme, qui se laissa patiemment tirer une épine de la patte, commencement d'une longue amitié entre deux personnages, l'un et l'autre assez peu commodes. Gubbio est une petite cité fort ancienne dont les fortifications dévalent en zigzag le flanc du mont Igino. Moins riante qu'Assise, elle paraît même un peu sévère. Mais l'immense Piazza della Signoria, placée au cœur de la ville, lui donne la majesté des grands espaces. Des maisons en bord d'un côté. En face, une terrasse domine la ville basse au toit rouge sombre. Et à chaque bout de la grande place rectangulaire s'affrontent deux palais. Tel sera le décor de la scène finale. Du temps de François, Gubbio vivait dans la terreur. Un loup d'une taille exceptionnelle hantait la campagne. Les habitants durent fermer les portes de la ville et n'en sortaient plus, quand il le fallait absolument, qu'armés de fourches et de piques. Mais l'infernale créature ne craignait rien ni personne, et, surgissant des bois, prélevait ses victimes avec l'autorité d'un minotaure. François décida d'y mettre bon ordre et se rendit à Gubbio, dont les habitants le supplièrent de rester parmi eux. Mais il ne les écouta pas, et, quittant la ville par la porte romaine, prit avec un compagnon le chemin de la forêt, repère du maître assassin.